Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
C'est toujours un comté très, très baromètre.
Marie, mon petit.
J'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant.
On fait quoi?
Patrick Derry.
Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an.
La rencontre, Derry, mon petit.
Patrick, Marie, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. D'autant plus que l'actualité continue de nous donner de quoi jaser, de quoi nous chicaner. Commençons par, déjà, je vais vous poser la question, avez-vous regardé Tout le monde en parle hier?
Non.
Oui, absolument.
Marie, je veux t'entendre. Drainville, comment t'as trouvé ça, toi?
Égal à lui-même. Rien de très surprenant sur la place qu'il a pris, mais je pense qu'il devrait peut-être faire attention de rester
si
sur ses dossiers quand il commente.
Guilbeault, tu réagirais comment?
Ouais, mais c'est ça. Je veux dire, non seulement il parle d'un dossier qui n'est pas le sien, mais en plus de ça, la question elle est adressée à sa collègue, qui est la porte-parole du dossier, qui est assise à côté de lui. Mais quand on
est vice-première ministre.
Quand Monsieur Legault a annoncé la candidature de Bernard Drainville, je me suis dit que ça ne se ferait pas sans heurts à l'interne du Conseil des ministres et de la CAQ. Et je pense qu'il commence avec. Il va peut-être avoir un petit rappel à l'ordre du cabinet du premier ministre. Là.
Collègue. Il y a aucun ministre qui est sorti, qui a accordé d'entrevue depuis, à part Pierre Fitzgibbon ce matin, là. Tout d'un coup, on nous répond à tous qu'ils vont se concentrer sur leur dossier. Et sachant Bernard Drainville en a beaucoup de dossiers sur lesquels il veut se prononcer, ben ça va prendre un petit moment avant qu'on l'ait.
Faudrait peut-être lui dire qu'il est plus chroniqueur ni animateur.
Ça pourrait être peut-être ça le rappel que je laisse le cabinet du premier ministre lui faire. Parlons de l'urgence. Des 16 heures à attendre à l'urgence, c'est quelque chose d'assez régulier, c'est rendu normal, ça fait partie de la norme et de la moyenne à laquelle on s'attend. Mais là, on se pose quand même des questions sur la sécurité des citoyens quand ils arrivent aux urgences, d'autant plus quand il y en a qui meurent à l'urgence. Marie?
Ouais, mais c'est ça. On a vu un cas qui a été rapporté ce matin d'un homme qui s'est présenté à l'urgence, qui malheureusement, comme beaucoup d'autres personnes dans cette situation, après de nombreuses heures d'attente, 16 heures dans son cas, sans voir un médecin, a décidé de quitter l'urgence, de retourner à la maison, est revenu le lendemain et malheureusement est décédé parce qu'il n'a pas été pris en charge. Et là, on a les urgentologues, dont le président de l'Association des urgentologues du Québec qui tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois déjà. Mais là, il avait un message encore plus préoccupant où il considère que la population est à risque, que les urgences du Québec ne sont pas sécuritaires, qu'ils n'ont pas le personnel nécessaire pour faire le triage, pour s'assurer justement que les gens qui pourraient avoir vraiment un problème soient vus, qu'on n'échappe personne dans les mailles. Et ça, c'est extrêmement préoccupant, là.
C'est particulier, mais Patrick?
Ouais, ben c'est parce que tu sais, c'est drôle, la semaine passée, on a parlé d'une couple d'histoires d'horreur dans les urgences qui c'était pas dans ce cas-là conclu par des décès, mais si on avait dit ça va devenir de moins en moins rare. Mais juste pour mettre en perspective, quand notre système de santé va bien, il y a à peu près un patient sur 10 qui repart après le triage sans avoir vu un médecin. Et c'est en grande partie ce qu'on appelle des P4 et des P5, c'est-à-dire des cas pas urgents qui auraient dû être vus en clinique, mais il y a aussi des P3. Des P2 puis des P1. Là. Des P3, là, ça, c'est une condition qui peut mettre ta vie en danger. Puis 2 puis 1, c'est quelque chose de vraiment très, très grave. Là. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a.
Et le là, P étant depuis, pour priorité. Hein?
Priorité, oui, effectivement.
Priorité 2 puis priorité 3.
C'est ça. Puis même des priorités 1, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est les stades du ministère de la Santé. Et là, dans ce cas-ci, depuis le début de l'année, Gilbert Boucher, je l'avais eu en entrevue cet été, il me disait c'est environ 1/6, si ma mémoire est bonne. C'est beaucoup plus élevé. Et je rappelle, ces patients-là sont passés au triage. Ils ont vu une infirmière ou un médecin au triage, si c'est un médecin. Puis tu sais, donc leur cas a été évalué, puis ils repartent quand même. Et c'est vraiment choquant parce que, puis là, tu sais, c'est plate de dire, tu sais, on l'avait dit. Ça fait longtemps qu'on le sait que le système de santé au Québec, il y a des difficultés, mais On avait dit cet été, moi je me rappelle d'une déclaration de Dr Boileau qui a dit nos hôpitaux, notre système de santé est robuste. Je pense que c'est le terme qu'il avait employé, le solide ou robuste. Il dit on est capable, tu sais, pas de problème, on est capable de tout prendre pour les hospitalisations. Et c'était pas vrai. Et c'est pour ça qu'il fallait protéger, parce que chaque patient de plus, chaque soignant de moins. Et là, je rappelle, octobre est même pas fini. Là, c'est rien comparé de ce qui s'en vient. Puis il faut pas oublier que c'est pas juste le manque de personnel. C'est chaque fois qu'il y a de la pression qui s'ajoute, il y a des gens qui décrochent, sont en surmenage. À un moment donné, après 4-5 quarts de travail de
TSO. Ouais, ça commence à être trop.
Et là, ils décident.
Si tu me permets, Patrick, tu sais, on voit ce matin qu'il y a des urgences qui sont encore à 200% de taux d'occupation. Et là, il y a de plus en plus d'urgentologues qui prennent la parole publiquement en disant on est dans une situation où le nombre de cas justement qui entrent est trop nombreux. C'est la période de la grippe, des infections respiratoires et compagnie. Mais je regardais la réaction du cabinet des ministres. Je pense que c'est ce qui me choque le plus dans la situation.
Puis
je la lis là, qui dit avec les changements que nous faisons, nous allons rendre le réseau plus solide dans les années à venir. Et c'est dit avec, tu sais, c'est comme c'est ça la réponse qui est faite, la réponse laconique suite au décès d'un homme dans une urgence où des médecins disent cet homme-là n'aurait pas dû décéder, il aurait dû être pris en charge adéquatement. On n'a pas été capable, on a failli à la tâche comme réseau de la santé. Et la réponse du cabinet du ministre, c'est de dire, pas d'inquiétude, Madame la Marquise, dans une couple d'années, ça va être réglé. Les urgentologues disent non, ben, c'est là, c'est aujourd'hui là qu'on a un problème.
Non, c'est ça. Et c'est, je veux rappeler, c'est pas anecdotique, hein, parce que il y a des gens déjà qui meurent sur les listes d'attente, sur des chirurgies. C'est des choses qui arrivent de façon régulière. On n'entend pas toujours parler, mais des fois, ça sort dans les médias de temps en temps. Et le sentiment d'urgence qui devrait être là, sans faire de mauvais jeu de mots, il est pas là. Là, ça devrait être, écoutez, là, faut qu'on remonte notre jeu. Tout le monde, même ceux qui sont plus jeunes, pour qui c'est abstrait, là, c'est plate. Il y a la COVID, il y a d'autres virus respiratoires, dont le VRS, qui est très dommageable, qui envoie des enfants. Aussi, on sait, Sainte-Justine est débordée. Là, ça serait peut-être le temps de mettre des masques, d'arrêter de dire que les N95 sont pas bons. On va faire un effort, tu sais, on comprend. On trouve pas ça super trippant, là, mais c'est soit ça, soit on va avoir beaucoup
ouais, mais on problème. Peut pas, on peut pas régler non plus le problème de notre système de santé puis nos urgences à coups de masque puis de N95, là, tu sais, il y a un certain.
Ben, ouais, attention, c'est parce que,
on réglera pas tout, mais c'est. Un peu quand même.
Oui. Parce que.
L'idée, il faut comprendre. Ouais, si tu me permets, Patrick, c'est en ce moment, puis c'est exactement là-dessus que les médecins sortent ce matin. C'est une adéquation. On manque de personnel. Si on peut pas ajouter du monde, il faut qu'il y ait moins de monde qui rentre à l'urgence. Si tu veux moins de monde à l'urgence, il faut que tu aies moins de monde qui rentre, entre autres pour des cas, justement, de virus respiratoires. Puis ça, les liens sont faits mondialement, à l'international, sont faits ici. Plus tu as de congestion dans les urgences, plus tu as de décès dans les urgences.
Oui, mais
donc là, il y a un enjeu
de demander à la population de reporter leur masque de manière obligatoire.
Moi, je pense qu'on devrait. Tu sais, là, est-ce que moi, je pense que c'était une erreur de l'enlever à plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'on était allé trop loin dans des mesures inutiles comme le couvre-feu, puis même le masque à l'extérieur. Parce qu'il y avait des affaires qui n'avaient pas d'allure, pas le masque à l'extérieur, mais on avait empêché les gens de se voir dans le parc. Là, faudrait venir pour dire, écoutez, les pharmacies, je pense que c'est un minimum. Les écoles, là, même si les pédiatres, il y en a qui ont peur, c'est pas vrai, c'est pas prouvé que c'est nuisible, mais on sait que les enfants, c'est des vecteurs de contagion, puis les écoles sont des lieux de contagion aussi. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de contamination à l'hôpital aussi, parce que les masques sont pas toujours, c'est pas toujours les bons masques, ils sont pas toujours portés, la ventilation, on s'en occupe pas. Il y a beaucoup de gens qui contractent des virus à l'hôpital, ça, on l'oublie, la charge que ça a sur le système de santé. Les soignants qui tombent malades.
Oui, mais ça peut
aussi,
pas toujours être sur la population. Ça peut pas toujours être la population qui doit venir donner un coup de main.
Écoute, ça va péter parce que oui, mais on est tous dans le bain.
C'est quoi la solution d'abord?
C'est parce que le monde va décrocher, vont juste complètement décrocher à chaque fois qu'on leur dit. C'est parce qu'on est toujours à minuit moins une, puis là c'est à vous de faire un autre effort.
Ah non.
On serait bien les seuls à la population à travers le monde, nous puis la Chine à devoir porter des masques pour aller encore.
Attends, dans la balance là.
Excuse-moi Marie, mais dans des pays d'Asie. Au Japon, par exemple, le port du masque est très largement diffusé dans la population.
C'est culturel. Parce que ça vient avant la pandémie.
Oui, mais on peut-tu... Est-ce qu'on est culturellement moins intelligent que les Japonais? Ou à un moment donné, c'est peut-être le leadership politique qui a fait défaut pour dire, écoutez, là, on veut être une société solidaire. On veut s'occuper de nos plus vieux puis de nos plus vulnérables. On veut s'occuper de nos soignants, de notre système de santé. Puis c'est en train de s'écrouler.
Portez donc un masque, on va trouver une autre raison pour la prochaine fois que vous mettiez encore du vôtre pour pouvoir sauver ce ministère-là. Puis on va dire qu'on a bien fait puis qu'on a bien sorti de la crise parce qu'on vous a imposé des masques. Puisqu'on ne s'entend pas, parlons donc du super ministre Fitzgibbon qui lui, il s'entend avec lui-même. Lui, il s'entend avec lui-même, il est cohérent avec lui-même. Puis, ça continue. Les questions qui sortent sur les potentielles apparences de conflits d'intérêts, ça n'a pas l'air à le déranger.
Quel conflit? Je vais rappeler les faits rapidement, là. Il y a eu 50 millions qui ont été investis par le ministère, puis par le gouvernement et par Investissement Québec, moitié-moitié environ. Ça donne que M. Fitzgibbon était administrateur de Lumen Pulse dans le passé. Ça donne que l'entreprise était déficitaire, donc pas nécessairement un bon investissement. Puis ça donne que le gouvernement a oublié de l'annoncer. Fait que, ça paraît pas bien.
Marie?
Ben, je pense que la liste, tu vois, ça, peut-être qu'on, c'est ça, la liste des conflits d'intérêts apparents ou vérifiés et les enjeux d'éthique autour du ministre Fitzgibbon commencent à être vraiment longues. Puis, je sais pas si on a collectivement la mémoire courte, mais tu sais, il y a un an à peine, le ministre Fitzgibbon a quand même été, a dû se retirer du Conseil des ministres. Et je vous rappelle que la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale avait fait maintes rapports qui blâment là, Monsieur Fitzgibbon au niveau de la déontologie, au niveau de l'éthique. Mais dans son rapport, dans un de ses rapports, a même suggéré que Pierre Fitzgibbon ne puisse pas siéger à l'Assemblée nationale.
Mais lui, il n'a pas de problème, Marie.
Vu, là. Non, mais lui, il voit pas de problème. Je comprends, mais il voit jamais de problème. Et de toute évidence, son premier ministre non plus. Mais moi, je vais citer son nouveau collègue, Bernard Drinville, qui disait en 2020 à la radio, dans un des premiers enjeux d'éthique qu'il y a eu entourant son nouveau collègue Pierre Fitzgibbon, il disait, t'es en politique, bonhomme, il y a des règles qui s'appliquent, respecte les règles. Si tu veux pas les respecter, retourne donc chez vous. Donc, je me demande bien au Conseil des ministres cette semaine ce que Bernard aura à dire ou à la radio ce qu'il aura à dire sur un autre apparent conflit d'intérêts.
Non, là, ils lui ont mis du mask and tape. Là, ils veulent pas l'entendre. On va écouter un extrait de Pierre Fitzgibbon ce matin qui était au micro de Philippe-Vincent Foisy exactement sur cette question-là.
C'est facile de porter critique quand on n'est pas dedans. J'étais membre du Conseil d'administration de plusieurs sociétés publiques, de la Caisse des dépôts. Il n'y a jamais eu aucun enjeu d'éthique. Alors, pourquoi aujourd'hui, là, parce que je suis ministre d'économie et d'enjeu d'éthique, je pense qu'il faut faire attention. Les gens qui commentent sur ça, souvent, n'ont pas la compréhension des garde-fous qui existent. Parce qu'il y en a des garde-fous. Il y a des gens qui pensent que moi, je signe des chèques le lundi matin quand j'arrive au ministère, là. Mais c'est pas demain, ça marche, là. Il y a une équipe au MEI, une équipe à Investissement Québec. Alors, je regrette, là, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les constats de ce matin. Puis c'est correct, là. Je pense que les gens ont dû exprimer leur opinion, mais il n'y a pas de problème, on continue.
Ce matin, parce que je porte quand même à ton attention qu'il a dit mot pour mot à peu près les mêmes affaires il y a un an, puis il y a deux ans, puis il y a deux ans et demi en disant, non, mais je pense que les gens comprennent pas. La commissaire à l'éthique à la déontologie de l'Assemblée nationale comprend pas. Les journalistes comprennent
personne
pas.
Comprend.
Les éthiciens comprennent pas. Personne comprend ma job. Ce que je fais, moi, c'est correct. Je vais continuer de le faire comme ça, tant pis.
Il nous a averti ce matin qu'il va y en avoir d'autres. Juste préparez-vous, là. Ouais. Des histoires comme ça, il va y en avoir d'autres.
Il s'en sac, puis il a dit que c'est un beau modèle qu'on devait être fier. C'est une entreprise qui était déficitaire, que tu sais, quand t'es pas capable d'avoir de financement public, puis c'est le gouvernement qu'il faut qu'il casse, qu'il y a un problème. Mais il y a un autre scandale là-dedans, c'est le modèle par subvention. C'est, à chaque fois que le gouvernement subventionne une entreprise qui a de la misère, là, c'est en réalité, là, il retient des employés à un endroit où ils devraient pas être, puis il empêche des entreprises saines qui sont pas capables de croître parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Fait que ça crée toutes sortes de distorsions dans l'économie. Puis je rappelle que le Québec est la province probablement la plus interventionniste. Puis qu'on se bat pour les plus pauvres, pas pour les plus riches. Fait que en plus de tout le reste, des problèmes d'éthique, c'est un modèle qui marche pas. C'est un modèle de 50 ans qu'on n'a pas mis à jour.
Sinon, parlons de cette lettre ouverte demandant l'interdiction de tous les enrobages de semences et le dépôt de nouveaux... du projet de loi 41, on demande du courage politique pour la question des pesticides. Marie, j'aimerais t'entendre là-dessus. Penses-tu qu'André Lamontagne va aller là-dessus?
Ben écoute, deux choses ce matin. Lettre ouverte, effectivement, ce matin, puis dans les derniers jours, là, lettre ouverte de plusieurs organismes qui demandent que le projet de loi qui avait été déposé par le ministre de l'Agriculture à la fin de la session passée, donc qui a juste été déposé un peu in extremis, alors que ça fait 4 ans que le dossier des pesticides est dans l'air. On s'appellera Louis Robert, le lanceur d'alerte qui avait été renvoyé, remercié, réintégré. Bon, à la dernière minute, à la fin de la session, Le ministre de l'Agriculture a déposé un projet de loi qui est mort au feuilleton. Et là, il y a plusieurs organisations qui demandent que ce projet de loi-là soit de nouveau redéposé pour empêcher les agronomes, dans le fond, de pouvoir et conseiller des agriculteurs et leur vendre des pesticides. Et en même temps, de façon concomitante, on apprenait aujourd'hui qu'un organisme qui avait fait une demande à Santé Canada sur des dossiers aussi de pesticides, puis s'est fait envoyer 200 pages vierges. Je trouve ça, c'est surréaliste. C'est comme ajouter l'insulte à l'injure. Non seulement j'ai caviarderai même pas, je vais juste envoyer mon pad de feuilles blanches. Ça va juste être plus simple comme ça. Je dis, tu pourras pas lire à travers le caviardage, mais il y a un enjeu.
Une personne devrait être punie pour ça, là. Tu sais, pour moi, là, c'est un manque de respect flagrant, là, d'envoyer ça à quelqu'un. Ben,
je suis convaincue que ça respecte pas les lois d'accès à l'information. Là, je veux dire, c'est très, très, très questionnable. Là. Je veux dire, au mieux, tu te caviardes, là, puis déjà, c'est pas très acceptable. Là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a des choses qui ont été faites au niveau des... Il y a des interdictions qui ont été faites en 2017 sur l'utilisation des pesticides, les néocotinoïdes, entre autres, ce qu'on appelle là, les tueurs de pollinisateurs. Tu sais, ça a des enjeux sur notre santé, ça a des enjeux sur la biodiversité. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand tu interdis quelque chose, les gens le remplacent par d'autres pesticides. Et là, en ce moment, on se rend compte qu'il y a d'autres pesticides qui sont utilisés à titre préventif de façon pas utile non plus. Ça se ramasse dans notre nourriture à tous et chacun. Justement, c'est dans les cours d'eau un peu partout au Québec. Je pense qu'on a besoin d'avoir un ministre qui est très, très, très proactif là-dessus. On l'a pas beaucoup vu dans les 4 dernières années, justement. On l'a entendu parler de la question des pesticides, mais je peux pas dire qu'il a été très actif là-dessus. J'espère qu'il entendra le cri d'alarme encore là qui est lancé dans cette
lecture. Mais tu sais, c'est quoi le problème, Marie? C'est parce que on a le même problème un peu à Ottawa puis à Québec, c'est-à-dire que, tu sais, il y a le bilan environnemental, l'éthique, c'est vraiment, disons, pas très bon, mais on réélit ces gouvernements-là. Il n'y a pas de sanctions politiques, hein. Ils sont réélus à répétition. Au fédéral, ça fait 3 fois. Au provincial, il y a une très, très forte majorité. Fait que le message qu'on dit, c'est parfait. Continuons.
Ouais, parce que, ben, en fait, quand on n'impose pas, ça, sans enjeu comme question de l'urne, c'est plus difficile de faire de toutes ces questions-là des enjeux politiques. C'est très niché, disons. Ce qui est moins niché, d'après ce qu'on entend, c'est les rats à Montréal. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas à écouter les différents intervenants? On le sait pas. Y a-t-il plus de rats à Montréal? Y en a-tu moins? Qu'est-ce qui se passe? Pour qui tu votes, Patrick?
Écoute, moi, ce que je trouve ça fantastique, la bullshit de la communication publique, des fois, la communication officielle qui consiste essentiellement à dire, il y a pas de problème, circulez, tout va bien, revenez plus tard. Là, t'as des entreprises d'extermination, de bestioles nuisibles qui disent, écoutez, on se dirige vers une catastrophe comme à New York, on en a 4 fois plus d'appels que pendant les années précédentes, ça représente maintenant les 3/4 de notre travail, avant c'était 30 à 40%, là, ça c'est différentes sources, le Maheu notamment, une autre centrale d'extermination. On dit aussi que c'est pire au quartier chinois, là. Il y a quelqu'un qui le constate, qui fait des interventions là, et la réponse de la ville: nous n'avons pas de problématiques récurrentes dans ce secteur de l'arrondissement en salubrité des logements. Pouf! D'un coup de baguette relationniste, le problème disparaît. C'est formidable.
Marie, toi, tu vois-tu plus de rats?
J'en ai pas croisé dernièrement. Je pense que le dernier que j'ai vu, c'est il y a 20 ans dans une ruelle, je sais plus où, dans Chicago.
Sors de chez vous, Marie, T'es sur le plateau, les rats ont peur du plateau.
J'en ai pas, honnêtement, je sais pas si c'est une question de quartier ou pas, là. Puis là, on est vraiment dans de l'anecdotique, mais c'est vrai qu'il y a t'as des endroits ça m'est arrivé cet été, là, de voyager, là, puis d'arriver dans un, on n'est pas dans un, je vais le dire, là, Paris, là, okay? Puis d'arriver, là, puis d'avoir des rats, mais vraiment, là, des colonies de rats devant toi qui se promènent, là. C'est plus qu'impressionnant, c'est un peu fréquent, je vais vous le dire, quand ça dépasse le nombre de 4-5, là. Mais puis dans des secteurs touristiques, là, tu sais, dans le coin de la Tour Eiffel, là, c'est donc il y a de toute évidence, il y a des villes qui ont ces enjeux-là. Je peux pas dire que j'ai vu ça à Montréal, là.
Écoute, c'est des animaux très intelligents, semble-t-il. Fait que peut-être qu'on peut leur apprendre à faire des tours. Hein? Ma fille a fait une recherche, ça a l'air qu'on peut leur apprendre à détecter des cancers puis faire du déminage. Fait qu'écoute, il y a peut-être quelque chose à faire pour le système de santé.
Mais on peut-tu s'entendre
si
de dire que notre ville est plus...
Garderai, là.
Ouais, c'est ça, garde-lui, s'il te plaît, parce que moi, je veux pas les voir.
Non, moi, j'ai un chien, je suis content.
Est-ce qu'on peut se dire que la ville de Montréal est de plus en plus sale? Tu sais, moi, mes parents, là, c'est pas du monde qui viennent au centre-ville souvent. Tu sais, on dirait qu'ils ont besoin d'un visa pour venir. Puis quand ils viennent, ils capotent parce qu'ils ont peur pour qu'on trouve pas de stationnement. Puis, tu sais, tout ce stress qui vient avec. Fait que j'ai décidé de les convaincre de venir faire un petit tour sur Sainte-Catherine. Puis le choc qu'ils ont eu, parce que eux, pour eux, Sainte-Catherine, c'est ce qu'ils sont habitués de voir, une belle rue piétonne, où le monde marche, où le monde magasine, mais c'était une rue où il y avait que des sacs de poubelles et que ça puait marcher sur Sainte-Catherine. Et ils m'ont fait prendre... Je me suis rendu compte que, en effet, Montréal est devenue une ville sale, dégueulasse. Est-ce que vous le voyez?
Je sais. C'est dur à... Je suis pas assez sorti puis revenu, c'est pour mesurer l'écart entre les deux, là, mais tu sais, il y a peut-être un lien à faire avec un paquet de choses dans le sens où on dit tout le temps, ah, le gouvernement va s'en occuper, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Puis je pense à un épisode des Simpsons, justement, où c'était présenté comme commissaire aux déchets, puis il a dit, ah, le slogan, c'était quelqu'un d'autre pourrait le faire. Puis on a un peu cette mentalité-là, puis je suis pas en train de dire, tu sais, qu'il faudrait enlever ces interventions publiques-là, mais on regarde tout le temps vers, tu sais, le pouvoir qui est en haut, puis il y a peut-être quelque chose à revoir. Il y a des sociétés qui fonctionnent un peu plus sur le mode collectif, notamment en Asie, des sociétés très libérales pourtant, mais il y a peut-être un examen de conscience collectif à faire ici.
On va attendre de voir la conclusion des autorités publiques. Est-ce qu'on a un problème de rat ou pas pour le moment? Ben faites attention à vous, puis si quelqu'un trouve un rat, regardez-le à Patrick Derry, sa fille, elle aime ça. Bonne journée!
on va l'amener en classe.
Bye, bye. À demain!